Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ensemble maintenant. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 22 et lire ensemble quelques versets qui vont servir de support à la méditation de ce matin. Genèse chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois !» Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Sans aucun doute, vous connaissez ce texte et les événements que nous venons de lire, qui sont arrivés à Abraham, cet homme choisi par Dieu, qui a quitté son pays d'origine pour obéir à Dieu et pour recevoir les promesses que Dieu lui avait faites. Et parmi les promesses que Dieu a faites à Abraham, il y avait la promesse d'avoir un fils. Or, la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. Et entre le moment où Dieu a fait la promesse à Abraham d'avoir un fils et le moment où il a eu son fils Isaac, il s'est passé 25 ans. Dieu a fait cette promesse à Abraham quand il avait 75 ans. Et ils ont eu un fils avec Sarah quand Abraham avait 100 ans. Alors Abraham a vécu beaucoup plus longtemps que nous. Hein. C'était encore une époque où les patriarches avaient une vie plus longue que la moyenne des hommes. Il a vécu 175 ans. Donc, mais à 75 ans, c'était plus tout à fait un ado quand même. Et il a dû attendre 25 ans. 25 ans, même sur une vie longue, 25 ans, c'est beaucoup. Pour avoir cet enfant que Dieu lui avait promis, cet enfant précieux pour lui, plus précieux probablement que toutes ses richesses, que tout ce qu'il possédait par ailleurs. Et je vois un premier parallèle avec notre Seigneur. Isaac a été un enfant attendu, désiré pendant 25 ans, sur la base d'une promesse de Dieu. Jésus, c'est l'enfant Messie promis et attendu par le peuple d'Israël pendant des siècles. Dans Genèse 3,15, lorsque Dieu énonce les sentences qui sont la conséquence de la chute, de la désobéissance d'Adam, de la désobéissance de Ève et de la tentation du serpent, eh bien il y a ce qu'on appelle un proto-évangile. Proto, ça veut dire une amorce, les premières traces, premiers indices de l'évangile. Il prophétise, Dieu prophétise au serpent qu'il va y avoir guerre entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, mais que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent et que le serpent va lui blesser le talon. Et vous voyez pourquoi c'est ce qu'on appelle ça le proto-évangile, parce que clairement, le descendant de la femme qui écrase la tête du serpent à la croix, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Cet enfant promis, dont on voit au fil de l'Ancien Testament qu'il va être un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant promis, attendu pendant des siècles avec ferveur, dont les gens se disent quand ils voient Jésus, ne serait-ce pas le Messie ? Même la Samaritaine dit ça aux habitants de son village. Venez voir, ne serait-ce pas le Messie ? Il m'a dit tout ce qui me concerne. Le Messie était attendu avec ferveur, bien plus que 25 ans, des siècles, des millénaires, pour apporter la solution au péché qui était entré dans le monde, dans la création, à cause de la désobéissance et de la rébellion de l'homme qui était responsable de cette création et qui l'a abîmée en désobéissant à Dieu. On est donc là dans une situation, dans une histoire qui, par certains aspects, annonce, fait écho à une réalité de l'histoire du salut qui est à venir. C'est ce qu'on appelle en théologie un type 2, c'est-à-dire un personnage ou une histoire, un récit qui, par son déroulement, évoque quelque chose qui va se passer de façon plus accomplie plus tard. Un exemple de type, c'est par exemple le sacrifice de la Pâque que les Juifs devaient sacrifier pour sortir d'Israël, et on sait très bien que les circonstances de ce sacrifice annoncent le sacrifice par excellence de Jésus à la Pâque, qui est le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Et vous voyez, il y a notion de type, c'est-à-dire un événement qui a été répété dans toute l'histoire d'Israël et qui annonce de façon prophétique l'événement parfait accompli par Jésus-Christ. Et là, avec ce récit d'Abraham dans Genèse 22, il me semble que Dieu nous invite à considérer ce que lui-même a fait pour nous, à travers l'histoire qu'il fait vivre à Abraham et à Isaac. Isaac était ce qu'Abraham avait de plus précieux, mais il ne peut rien y avoir de plus précieux dans la vie d'un croyant que Dieu lui-même. Dans Luc, au chapitre 14, les versets 26 à 27, voilà ce qu'on peut lire. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Ses disciples, c'est nous. Ce n'est pas juste ceux qui ont entendu ça à l'époque. Et la question qui se pose quand on lit cette histoire d'Abraham, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Abraham ? Est-ce que nous aimons Christ plus que tout ? Est-ce que nous aimons Christ plus que notre épouse, que nos enfants, que nos parents, que nos amis, que nous-mêmes ? Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas chrétiens. Christ, ce n'est pas une option dans un forfait téléphonique. J'ai pris l'option couverture 4G, c'est bon. Je suis en paix, je vais pouvoir réussir ma vie. Non, ce n'est pas ça. Christ, c'est le cœur de notre vie, le sens de notre vie, le Sauveur, le Seigneur, celui qu'on doit aimer le plus. Quand je fais des préparations au mariage avec des jeunes qui réfléchissent sérieusement, qui veulent se fréquenter et réfléchir à ce que la Bible appelle le mariage dans l'éventualité d'un projet conjugal, eh bien j'ai la lourde responsabilité de leur dire « si tu veux vraiment aimer ton épouse, si tu veux vraiment aimer ton mari, il faut aimer Christ plus, il faut aimer Christ d'abord, il faut aimer Christ avant ». Et je dirais même qu'on aimera réellement bien et mieux notre conjoint, nos enfants, nos proches, si Christ est d'abord et avant. Parce que c'est lui qui va nous donner les ressources d'amour dont nous aurons besoin dans notre vie pour être renouvelés, pour aimer vraiment. Si on veut aimer quelqu'un plus que Dieu, plus que Christ, ça devient une idole. Et on ne l'aimera pas bien. Au verset 1 et 2, donc, que nous avons lu, Dieu demande l'impensable, cet enfant qui a été désiré pendant 25 ans, qui est enfin là, qui commence à grandir, qui a de la vigueur. C'est pas encore un homme, mais c'est plus un enfant, on s'en aperçoit, puisqu'il porte le fagot, il a une capacité d'interaction et de réflexion avec son père. Eh bien, il faut l'offrir en sacrifice. Et pourtant, on s'aperçoit dans l'Ancien Testament que Dieu réprouve les sacrifices humains. Il a même cela en horreur. Et quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, il y a des rois extrêmement impies, notamment le roi Manassé, mais ce n'est pas le seul, mais lui a vraiment s'est distingué par son infidélité. Il a fait de l'occultisme, il a fait rentrer des idoles dans le temple, il a consulté les morts, il a fait des choses horribles. Et la Bible dit qu'il a fait passer ses enfants par le feu, c'est-à-dire des sacrifices humains dans des rituels païens où, pour montrer son dévouement à la divinité, vous vous rendez compte, on brûlait son propre enfant. Et Dieu dit que c'est en horreur que cette chose-là ne lui était pas venue à l'idée, qu'il n'a jamais demandé à Israël de faire ça. Et que c'est le signe d'une infidélité grave. Et puis Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère, d'aimer notre prochain, etc. Donc il n'est pas question, dans ce que nous sommes en train de dire, de détester les gens sous prétexte qu'on aimerait Dieu, mais de dire, est-ce que Dieu est à sa place dans ma vie ? Est-ce que c'est bien Christ qui est au centre ? Est-ce que c'est lui la personne la plus importante ? Et c'est ce que Dieu est en train d'éprouver dans la vie d'Abraham. Voilà, la personne qui est la plus précieuse à tes yeux dans toute ta vie, tu vas l'offrir en sacrifice à moi. T'es prêt à le faire ou pas ? Que fait Abraham ? Il obéit sans broncher. Le texte ne laisse pas de place à des remarques d'Abraham, à une réflexion, à dire « Quoi ? J'ai... » Vas-y, tu peux répéter, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il y avait la ligne grésillée sur la fin. Dieu lui demande d'aller offrir Isaac sur un lieu qui s'appelle Morija. Morija, c'est un mont avec des contreforts qui sont à proximité de Jérusalem. Un mont sur lequel, au moment d'une plaie spéciale, le roi David va offrir un sacrifice de demande de pardon à Dieu pour son pour sa faute, parce qu'il aura fait recenser le peuple d'Israël et que ça a entraîné une très grave plaie. Et sur ce mont-là, qu'il aura acheté à prix d'argent, eh bien, c'est là que son fils Salomon va bâtir le temple. Et c'est pas très loin de cet endroit-là que Jésus va mourir, et qu'il va être enterré, et qu'il va ressusciter. Vous voyez dans l'histoire du salut, encore une fois, ce que représente ce mont, cet endroit, dans ce récit-là. C'est pas un hasard. Si Dieu demande à Abraham d'aller offrir Isaac sur le mont Morija, Abraham obéit sans broncher. Il s'organise techniquement pour tuer son fils. Rien oublié, le couteau, le feu, le bois, les serviteurs, tout ça. Comme Dieu, Dieu s'est organisé pour sacrifier son fils avant la fondation du monde. 1 Pierre nous dit que Christ a été prédestiné avant la création du monde pour être le sauveur. C'est dire la souveraineté de Dieu sur ce qui existe, sur le temps, sur la création, sur son plan. C'est rassurant pour nous de savoir que nous avons foi dans ce Dieu qui maîtrise tellement les choses, qui règne tellement de façon souveraine qu'il peut décréter à l'avance, avant que le monde existe, ce qui va se passer dans l'histoire du monde et la façon dont il va sauver le monde en sacrifiant son fils. Dieu s'organise pour que le sacrifice de son fils fonctionne. Et Jésus s'organise pour que son sacrifice ait lieu. Il enlève les obstacles à son arrestation et à la crucifixion, parce que son objectif, c'est de donner sa vie et de la reprendre. Tel est l'ordre qu'il a reçu de son Père. C'est ce qu'il dit aux disciples dans l'évangile de Jean. Isaac est soumis. Il est soumis à son Père. Il ne se révolte pas. Il accepte les réponses que son Père lui donne. Et on peut voir là aussi, d'une certaine manière, la soumission exemplaire de Jésus à son Père céleste. Ésaïe prophétise sur Jésus en disant qu'il est semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Vous êtes dans une région qui est un petit peu plus rurale et campagnarde que la nôtre, et il y a un rapport à la nourriture qui est sympathique, qu'on apprécie beaucoup avec mon épouse. Je crois que dans le sud, on doit battre des records de consommation de comté et de pommes de terre. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'aime. Mais peut-être que vous avez déjà entendu dans les fermes, quand on tue le cochon, ça fait un bruit incroyable, parce que le cochon, c'est pas du tout un animal qui subit la mort de façon sereine et tranquille. Il paraît que ça fait un bruit incroyable, d'accord ? C'est un animal qui est intelligent, qui comprend bien ce qui va lui arriver, et il n'est pas trop d'accord pour finir en saucisson ou en chair fraîche. En revanche, il paraît que c'est frappant de voir à quel point les brebis, les agneaux, sont dociles jusque dans la mort. Christ est un agneau qui allait à l'abattoir, une brebis qui n'a pas résisté à son exécution. Il y a là un exemple de soumission exemplaire à un destin qui n'était pas facile, sous prétexte qu'il devait être accompli par le Fils de Dieu. La destinée de Christ sur la croix, c'est d'être frappé par la colère de Dieu. De savoir ce qu'il va vivre, ça lui fait transpirer des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémané. Le récit se poursuit. Abraham prouve qu'il veut obéir à Dieu jusqu'au bout. Il va, il lève la main, il a le couteau, il va frapper. Dieu l'arrête. Dieu arrête le geste d'Abraham. Le désir de Dieu, ce n'était pas qu'Isaac soit mis à mort. C'était que la foi d'Abraham soit démontrée, soit proclamée, soit éprouvée. Il y a des épreuves dans nos vies dont le but, si on est enfant de Dieu, c'est jamais de nous écraser. C'est pas de nous conduire dans des impasses, c'est de valoriser notre foi, de proclamer notre foi. C'est ça le bon combat, être fidèle dans l'épreuve. être fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive. Dieu arrête la main d'Abraham. Le parallèle entre Abraham et Isaac d'un côté et Dieu et son fils de l'autre s'arrête là. Parce que sur la croix, personne n'a arrêté la main de Dieu. Et Jésus pousse ce cri qu'on appelle le cri de déréliction, c'est-à-dire qui exprime le drame qui est en train de se jouer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus n'est pas en train de se demander ce qui se passe, contrairement à ce que certains pensent. Il ne pose pas une question à laquelle il n'a pas la réponse. Il est en train de proclamer à voix haute pour que tout le monde entende ce qui est en train de se passer. Et la réponse, pourquoi Christ a été abandonné sur la croix ? À cause du péché, à cause de la justice sainte de Dieu qui demande réclamation, qui demande le prix de nos fautes, que nos fautes soient payées pour que nous puissions être justifiés dans la justice devant la justice de Dieu, pour que Dieu puisse nous appliquer la justice de Christ. Il fallait que le châtiment de nos fautes tombe sur lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour nous sauver. Êtes-vous enfant de Dieu ? Christ est-il votre sauveur ? Votre Seigneur ? Est-ce qu'il est tout pour vous ? Si c'est le cas, notre Dieu nous voit à travers son sang et il nous attribue la sainteté de son Fils. Il nous attribue sa justice. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ devant la justice de Dieu, nous dit la Bible. Parce que Dieu est allé jusqu'au bout, à la croix. Et je crois que lorsque nous méditons sur la croix, nous voyons assez bien l'œuvre du Fils. Évidemment, c'est lui qui est là, qui est en train de mourir à notre place. Mais ce récit d'Abraham et d'Isaac nous aide à discerner l'œuvre du Père à la croix. L'œuvre du Père à la croix. Mettez-vous dans la peau d'Abraham, vous qui avez des enfants comme moi, et dites-vous que vous devez offrir par amour pour quelqu'un la vie de votre enfant précieux. Voilà de quel amour le Père nous a aimés. Voilà l'œuvre du Père à la croix pour nous. Romains 5,8 nous dit que Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour pour nous. Personne n'a arrêté sa main. Il a frappé son Fils de sa colère. Christ a vécu l'enfer à notre place sur la croix. Il s'est substitué à nous dans le jugement pour pouvoir nous offrir en retour ce que sa vie parfaite méritait, la vie éternelle, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Quand on dit ce verset qu'on connaît par cœur, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », qu'on lit parfois un peu rapidement, le début du verset dit « Dieu a tant aimé » qu'il a donné son Fils. Voilà l'œuvre du Père à la croix. Vous croyez que à la croix, c'était juste la deuxième personne de la Trinité qui faisait quelque chose et que le Père et le Saint-Esprit sont ailleurs en train de faire autre chose ? Non. La Trinité œuvre de concert dans tout ce qu'elle fait. En communion. Chaque personne dans son rôle. Le Père est présent. Et l'œuvre de la croix manifeste son amour immense. Lorsqu'on continue le récit au verset 11 et 12, on s'aperçoit que du haut du ciel, il y a un personnage particulier qui apparaît de temps en temps dans l'Ancien Testament, qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et ce n'est pas un ange parmi les autres, c'est une manière de parler d'un personnage, une personne qui a une dignité divine et qui parle de la part de l'Éternel, mais qui parle en étant lui-même l'Éternel. Et les théologiens ont l'habitude, à juste titre, de considérer que cette personne, eh bien, c'est le Fils de Dieu, avant qu'il s'appelle Jésus-Christ et qu'il vienne s'incarner. C'est cette personne qui vient manger avec Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorre. C'est cette personne qui a lutté avec Jacob et qui lui a déboîté la hanche. C'est cette personne qui parle avec Josué avant la prise de Jéricho. Cet ange de l'Éternel qui intercède en faveur de Zorobabel et de Josué dans Zacharie, alors que Satan les accuse devant Dieu. L'ange de l'Éternel est là, du haut du ciel, et il parle à Abraham. Et il lui dit ceci, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et vous voyez qu'il parle de Dieu à la fois comme quelqu'un d'autre et comme lui-même. Et ça, il n'y a qu'une personne de la Trinité qui peut le faire. Et ce qui est touchant, c'est que la deuxième personne de la Trinité qui arrête le bras d'Abraham est la même qui va donner sa vie sur la croix. C'est Christ qui a arrêté la mort d'Isaac, mais cette mort préfigure sa propre mort. Sur une montagne où va se passer le sacrifice de la croix. Au verset 14, le texte dit ce que Abraham avait prophétisé, du reste, sans savoir de quelle manière Dieu allait pourvoir avec certitude. Quand son fils lui avait demandé « Mon père, je vois qu'il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais où est la victime de l'Holocauste ?» Abraham avait répondu « Dieu pourvoira ». Et c'est de cette manière-là, finalement, que Dieu a agi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'Abraham pensait que s'il était allé jusqu'au bout, Dieu était puissant pour ressusciter son fils Isaac. Mais Dieu n'a pas fait en sorte que Isaac soit mis à mort par son père et il n'a pas laissé le tuer, donc il n'a pas eu besoin de le ressusciter pour le ramener à la vie. Il a pourvu en donnant la victime de l'Holocauste, la victime du sacrifice. Et du coup, Abraham a baptisé le lieu où il se trouvait, Yahvé Jiré, c'est-à-dire Yahvé, le nom de Dieu, pourvoira, va pourvoir. Est-ce que vous croyez que Dieu va pourvoir à tout ce dont vous avez besoin, à tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ, dans nos vies? Est-ce que vous croyez qu'il a pourvu à notre vie éternelle par le sacrifice de Christ à la croix? Ce proverbe, il est prophétique à l'époque d'Abraham. En effet, Dieu va pourvoir. Il va pourvoir bien plus que par ce bélier qui est là dans les buissons et qu'Abraham a mis à mort à la place de son fils. Dieu va pourvoir d'une façon parfaite au salut de la nouvelle humanité qu'il sauve en Jésus-Christ, au salut de son peuple, au salut de ses enfants qu'il aime et qu'il veut délivrer de la folie du péché. Dieu pourvoit. Notre Dieu est quelqu'un qui ne peut pas être pris au dépourvu. Est-ce que vous pensez que dans vos vies, il manque des choses, que Dieu est pris au dépourvu par les événements? Nous sommes souvent pris au dépourvu. Mais c'est l'occasion de crier à lui et il pourvoit à ce dont nous avons besoin. Dans les versets 15 et 18, il y a l'ange de l'Éternel qui exprime la bénédiction envers Abraham. La bénédiction envers cet homme dont qu'on surnomme, qu'on appelle parfois le père des croyants. Alors, dans la culture, à notre époque, on entend par père des croyants qu'il est l'ancêtre revendiqué par les trois grandes religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais dans le cadre du Nouveau Testament, il y a quelque chose de plus ciblé que ça, de plus juste aussi. C'est-à-dire que Abraham, Paul nous explique, aussi bien dans l'Épître aux Galates que dans l'Épître aux Romains, qu'il est celui qui nous a précédés dans la foi, et finalement, les véritables descendants d'Abraham, contrairement à ce que croyaient les contemporains de Jésus, ce ne sont pas les descendants physiques. Il ne suffit pas d'être juif par le sang pour être en règle avec Dieu. Et Jésus s'évertue à expliquer cela à ses contemporains en leur disant « Mais si vous ne produisez pas des fruits dignes de la repentance, eh bien, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Et dans le ciel, il y aura à table avec les patriarches des gens qui vont venir de l'Orient et de l'Occident. Et il y a des enfants du royaume qui vont être jetés dehors. » Les descendants d'Abraham, ce sont les descendants par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans ce Dieu qui a pourvu à la vie d'Abraham, qui lui a fait ses promesses, mais qu'Abraham a aimé plus que son propre fils. Et Dieu, la deuxième personne de la Trinité, là, qui s'appelle l'ange de l'Éternel, eh bien, promet à Abraham qu'il va avoir une descendance immense. À cette époque-là, Abraham, je ne sais pas ce qu'il imaginait, mais actuellement, la Bible nous dit que tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont les descendants d'Abraham, sont cette descendance promise, nombreuse comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races. Cette foule nombreuse qu'on voit dans l'Apocalypse en train d'adorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau de Dieu, et se prosterner avec les anges, cette foule immense, eh bien, c'est Abraham qui en est l'ancêtre par la foi. Bien entendu que cette œuvre, elle s'accomplit en Jésus-Christ et qu'elle se manifeste aujourd'hui parce que nous appelons l'Église, non pas seulement l'Église locale, celle que nous fréquentons, qui est une manifestation de l'Église, mais l'Église que Dieu voit, qui est la réunion de tous ceux qui sont sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ, tous ceux que le Saint-Esprit a touchés, a convaincus de péché, a amenés à genoux au pied de la croix pour confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ça l'Église universelle, l'Église qui est l'œuvre de Dieu, l'Église qui est la descendance que Dieu a donnée à Abraham, cette filiation du peuple de Dieu qui est sauvé par la foi en Christ, par la foi dans le Messie promis, par la foi en cet ange de l'Éternel qui, dès avant la fondation du monde, avait été désigné dans le sein de la Trinité pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir son salut. Ce salut a été voulu par le Père, accompli par le Fils, et il nous est appliqué par le Saint-Esprit. Voilà la Trinité qui est à l'œuvre pour nous sauver. Ce Dieu trinitaire que la Bible nous invite à mieux connaître pour mieux l'aimer. Et je crois, j'espère que ce matin, par la lecture de ce texte, nous avons revisité de quelle manière ce Dieu trinitaire nous aime, quel prix il a payé. Et il nous a invité aussi ce texte à nous mettre, avec tous les guillemets que vous m'autoriserez, dans la peau de Dieu pour mesurer quel prix il a payé par amour pour nous. Amen.